une histoire particulière. À travers l'histoire, la folie s'est exprimée par l'identification à des personnages politiques marquants. On a ainsi retrouvé des malades se prenant classiquement pour Louis XVI, Jésus ou Mahomet. En 1793, les asiles sont pleins de malades qui croient qu'on les a décapités, puis qu'on a recousu leur tête sur le corps d'un autre. Pendant la guerre de 1870, dans un Paris rongé par la guerre civile et la famine, les hôpitaux grouillent de filles du peuple qui s'identifient à Jeanne d'Arc. Mais celui qui reste le champion des registres, c'est sans aucun doute celui dont Marc Guidoni et Laurent Polleret vont vous raconter l'histoire aujourd'hui. Un bien bel exemple de folie bicornue.
France Inter, 20h. Inter soir, deuxième, François Foucault.
Napoléon est mort. Le comédien Albert Dieudonné est mort en effet cet après-midi à Boulogne-Billancourt. Il était âgé de 87 ans. Albert Dieudonné avait une très longue carrière, tant au théâtre qu'au cinéma, mais il avait eu dans sa vie un grand rôle. En 1926, sous la direction d'Abel Gance, il avait été L'Empereur, un film de 4h40. On ne peut pas dire que Albert Dieudonné se promenait dans la vie une main dans le gilet et un petit chapeau gris sur la tête, mais malgré tout, il avait été L'Empereur. C'était sa carrière, sa vie. On n'est pas impunément Napoléon Ier.
Je suis né un siècle après la prise de la Bastille. Je suis né en 1889. Le général Bonaparte, elle était plus jeune que moi à l'époque, puisqu'il est né, lui, en 1769. Alors en 89, au moment de la Révolution, il avait donc 20 ans.
Des Napoléons, il y en a plein les asiles psychiatriques. C'est même devenu la figure d'épinal du malade mental qui déambule dans un parc, la main dans le veston, avec ou sans chapeau. Tant il est vrai que le fascinant personnage de Bonaparte a pu rendre certains littéralement fous. Encore récemment, en 2019, Oleg Sokolov, un historien russe spécialiste reconnu de l'empereur, a assassiné et démembré une de ses anciennes étudiantes, dont il pensait qu'elle était la réincarnation de Joséphine, et lui demandait de l'appeler Sire. Mais la plus belle folie napoléonienne, c'est probablement celle d'Albert Dieudonné. Car nous allons vous confier et vous conter un secret précieux. Lui, il était vraiment Napoléon. L'homme qui voulut être Napoléon, première partie, l'incroyable incarnation. Christine Leteux, bonjour. Vous êtes historienne de cinéma, spécialiste de cinéma de patrimoine et en particulier d'un film magnifique et mythique qui est le Napoléon d'Abel Gance de 1925. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en contact avec cette chose incroyable qu'est le Napoléon d'Abel Gance?
J'avais trouvé le film absolument passionnant parce que c'est vrai qu'il utilise toutes les nouvelles techniques de narration visuelle, mais des choses absolument incroyables pour l'époque, quoi, qui ont une avance technique parce qu'il a un ingénieur avec lui sur le tournage, donc il lui demande je veux faire quelque chose, par exemple une vague à l'écran, alors l'autre va lui mettre la caméra au bout d'un pendule. Donc ils installent ça dans le studio et la caméra frôle la tête des acteurs là pendant qu'il est en train de filmer la bataille à la Convention. Pour la séquence de la Marseillaise, par exemple, là, il décide qu'il faut qu'il y ait une caméra mobile qui se mêle aux figurants, etc. Et là, donc, le chef opérateur, Joseph-Louis Munwiller, porte une espèce de cuirasse sur laquelle est accrochée donc, une grosse caméra. Les caméras étaient très lourdes à l'époque. Et avec ça, il va pouvoir se déplacer et faire de la caméra mobile. Maintenant, on a l'habitude de ça, évidemment, le Steadicam, etc. Mais à l'époque, il n'y a rien de tout ça. Donc, tout doit être inventé. Et ils le font sur ce film-là. Ils inventent de nouvelles techniques et il y a des choses incroyables. Comme par exemple la caméra à dos de cheval. Bon, ça paraît un peu fou, surtout, comme je vous dis, le matériel technique de l'époque est extrêmement complexe. Donc l'ingénieur qui travaille, Simon Feldman, est obligé d'inventer donc un petit moteur à vapeur qui va être fixé sur le dos du cheval pour alimenter en électricité la caméra pour qu'elle tourne toute seule. Et effectivement, donc, pendant la fuite de Napoléon en Corse, on voit une courte séquence qui est tournée à dos de cheval. Tout le film comme ça est marbré de toutes ces inventions techniques et se termine donc sur une apothéose qui est ce triple écran qui a jamais été égalée, on peut dire, jusqu'à nos jours. Quoi. Il y a des idées absolument incroyables, puisque donc on a un système avec de triptyque, donc avec trois caméras, qui étaient dirigées donc de telle façon à former un écran très très large, donc trois fois la taille de l'écran normal. Et en même temps, Gans avait réalisé un montage complexe, donc avec trois images séparées, où il pouvait donc donner libre cours à son lyrisme. Enfin, c'est très difficile à expliquer si on le voit pas, mais c'est absolument incroyable. Hein. Si vous avez la chance d'aller le voir en salle, ce que j'espère qu'il sera quand même diffusé en France, plus les gens qui s'y sont intéressés, comme Coppola, Lelouch, enfin, énormément de gens, ça a fait une histoire incroyablement compliquée, qui a rendu cette histoire encore plus complexe. Enfin, c'est absolument effarant, quoi.
Une particularité aussi de ce projet un peu fou de Gans, on reviendra sur le personnage de Gans lui-même, c'est que, en fait, le film qu'on voit, qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas dans sa restauration en cours, sa nouvelle restauration en cours par la Cinémathèque française, n'est qu'en fait le premier chapitre, en quelque sorte, d'un projet pharaonique qui devait aboutir à sept films, ou six films. C'est-à-dire que la totalité de l'histoire de Napoléon, depuis l'enfance jusqu'à l'exil à Sainte-Hélène, en passant par l'ensemble des grandes étapes de sa vie. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait, seul ce film-là a existé?
Ça, c'est la méthode de production de Gans. C'est très, très dispendieux. Hein. Il n'est pas du genre à travailler à l'économie. Hein. Et il va tourner séquence sur séquence. Le volume, je crois, de pellicules qu'il a tourné pour le film, c'est hallucinant. Enfin, je pense que la malheureuse monteuse qui travaillait avec lui avait de quoi devenir folle. D'ailleurs, il paraît qu'elle a fait une dépression nerveuse au moment du montage, ce qui ne m'étonne pas du tout. Mais c'est ça, quoi. Gans, il a des idées très grandes. Il se lance dans quelque chose de gigantesque et rien n'est trop beau, quoi. Il veut un nombre de figurants hallucinants, des nouveaux procédés techniques. Il veut aller tourner sur place. Enfin, il fait des tas de choses qui ça coûte, quoi. Effectivement, déjà, le premier film, déjà, a coûté tellement. Et en plus, il s'est retrouvé en banqueroute, en plein milieu. Enfin, bon, c'est une histoire folle. Donc, c'est déjà étonnant qu'il ait réussi à terminer le premier, je dirais. Mais quand il a été projeté, moi je l'ai vu en Grande-Bretagne, donc à Londres en 2013, hein, et c'est vraiment fabuleux, quoi. Vous avez un orchestre symphonique qui joue et vous avez donc ce triple écran avec toutes ces images. Ça fait toujours un effet bœuf sur tout le public, hein, que ce soit un public de passionnés de cinéma ou de débutants qui n'ont jamais vu de film comme celui-là. Les deux premières heures du film sont absolument incroyables, quoi. Il y a un rythme absolument effréné. C'est vraiment absolument magique, quoi. Je mets au défi n'importe qui de ne pas être emporté par le déferlement des images dans ce film, quoi. Il y a des choses tellement incroyables. Ce qui le rend vraiment passionnant, au-delà même du personnage de Napoléon, je dis bien, c'est toutes les avancées techniques qu'il y a dedans qui sont mises au service de l'histoire. Chez Gans, il y a vraiment une idée de faire avancer l'histoire et de magnifier le moment, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi dans cette histoire de Napoléon ce truc rend fou, mais vraiment, c'est-à-dire Abel Gans, Dieudonné, Laurent Polleret, Marguy Denis, Christine Leteux, Kevin Brownlow, que sais-je encore, Bambi Ballard, non?
Non, moi je suis toujours restée un pas en arrière de tout ça, non.
Quand même un monsieur tout à fait étonnant qui est Albert Dieudonné, qui jouait Napoléon.
Absolument.
Il jouait toujours Napoléon.
Il ne faisait que des Napoléons.
C'est incroyable.
Oui, oui.
Arletty.
Il n'en était pas devenu cinglé. Hein.
Vous êtes sûr?
Il n'était pas tordu pour ça.
Non, mais enfin, il interprétait le rôle. Oui, ça l'avait frappé quand même.
Oui, ça frappe. Ça a frappé tous les types qui ont joué Napoléon. Je crois qu'il ne faut pas toucher les Jeanne d'Arc, les Napoléons. Il ne faut pas toucher à ces gars-là. Et Hitler, tout ça, ça ne va pas, ça. Ça réussit pas. Je crois pas. Moi, je crois pas. Ah, ben, si elle avait réussi à lui, il était merveilleux, du reste. Merveilleux dans ses Napoléons, car il en a fait plusieurs. Il était assez drôle parce qu'on a donné à Napoléon, à l'Odéon, une pièce. Alors, il avait avec ses amis très chics, il était avec des copains très chics. Il dit, venez avec moi ce soir à l'Odéon, allons voir comment il me joue, il disait. Tordant.
Mais j'ai le souvenir que vraiment, il habite le film complètement du début à la fin. Il est là partout, tout le temps.
Philippe Cobert, comédien et metteur en scène.
C'est un grand film romantique. Et je me rappelle d'un acteur possédé, une hystérie, une sorte de... qui est dans la nature du romantisme. Alors maintenant, bon, évidemment, jouer avec Abel Gance, Napoléon, c'est quand même, ça doit être un truc spécial, hein, ça, voilà. Et puis le film est aussi, il y a aussi que le film est à son service. Dans Napoléon, vraiment, c'est, même si c'est une fresque, c'est quand même le personnage principal est complètement, rempli l'écran, les trois écrans complètement. Donc, il est aussi, on lui confie une responsabilité énorme. On lui confie la responsabilité d'incarner le film.
Hervé Dumont, bonjour. Vous êtes historien de cinéma. Vous avez dirigé pendant de nombreuses années la Cinémathèque de Suisse. Vous êtes auteur d'une encyclopédie en ligne sur le cinéma de patrimoine et vous avez écrit un livre magnifique qui s'appelle Napoléon en 1000 films, qui est sorti en 2015, qui rassemble l'ensemble des films de cinéma et de télévision depuis l'origine du cinéma dans lesquels Napoléon est présent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que pour se lancer dans un travail aussi exhaustif, aussi complet, on est avant tout un fan de Napoléon ?
Ce n'est pas Napoléon lui-même qui m'intéressait, même si le personnage est extrêmement complexe. Et je l'ai constaté quand je parlais autour de moi, il y avait des réactions très vives, pour ou contre, et tout ce qu'on voudra. Mais au fait, c'est un livre sur l'image de Napoléon, à la fois l'image qu'il s'est fabriquée lui-même, il ne faut pas se leurrer, et l'image qu'en ont donné ses amis et surtout ses ennemis. Il n'a laissé personne indifférent, il y a effectivement des portraits haineux, comme il y a des portraits qui frisent l'idolâtrie, on a absolument tout. Et ce phénomène-là m'intéressait particulièrement pour de mettre, si vous voulez, ces images en rapport avec, non pas encore une fois Napoléon lui-même, pas directement, mais avec l'époque et les régimes qui produisaient ces images de Napoléon. Tout film en costume parle du présent.
Donc ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous présentez dans ce livre, c'est que Napoléon est finalement le personnage de l'histoire du cinéma qui a de très très loin généré le plus de films, très loin devant Jeanne d'Arc, Jésus, Lénine, j'en passe et des meilleurs.
Il faut bien comprendre qu'il s'agit donc 1000 films qui parlent de l'épopée napoléonienne, pas seulement de lui, mais effectivement de son influence, de la présence de ses troupes, de ses conquêtes ou non, de ses défaites. Tout cela est des personnages qu'il a connus, de ses amours bien sûr, de ses ministres, maréchaux et de ses ennemis. Tout est pris en compte.
Alors vous avez placé en exergue de votre livre une phrase de Napoléon, le vrai Napoléon, qui dit... Pour bien se faire comprendre des peuples, il faut d'abord parler à leurs yeux. Ce qui est quand même une phrase incroyable de préscience sur ce que va être le cinéma.
Napoléon disait de lui-même, si on me voit sur le champ de bataille en personne, si l'ennemi me voit, ça fait 100 000 soldats de plus de mon côté. C'est-à-dire, il savait que la présence même, sa présence lui-même, valait 100 000 soldats. Donc c'est dire que l'image qu'il projetait quand on le voyait sur son cheval blanc et puis avec son tricorne avait déjà une puissance incroyable. D'où justement l'importance de la visualisation du personnage.
Vous recensez dans votre livre plus de 400 acteurs qui ont joué à un moment ou à un autre Bonaparte, ce qui est quand même phénoménal et montre que pour le métier de comédien, c'est en quelque sorte un graal de jouer l'empereur. Parmi évidemment tous ces acteurs, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Albert Dieudonné. Quel est votre ressenti sur sa performance ?
D'une certaine manière, Dieudonné, bon, il avait évidemment, quand il l'a interprété, il avait 35 ans, c'est-à-dire en fait 10 ans de trop par rapport à Bonaparte. Dieudonné me semble absolument parfait. Il a le regard fixe et perçant, il a le ton impérieux, le profil. Gans a longtemps cherché qui pourrait incarner Napoléon. Il avait d'abord demandé à Ivan Mozoukine, la grande vedette russe blanche, qui a préféré faire Michel Strogoff. Il a demandé à Lou Poupic, à Charles Vanel déjà, à Werner Krauss en Allemagne déjà, qui interprétera Napoléon. Il a même demandé au tout jeune Sacha Guitry. Il s'est intéressé, le poète Léon-Paul Fargue. a été abordé. Est-ce qu'il voulait jouer Napoléon? Le romancier René Fauchois aussi. Donc, on a beaucoup hésité jusqu'au moment où on tombe sur Albert Dieudonné, qui semblait être absolument parfait, du moins pour, encore une fois, pour ce rôle de Napoléon à 25 ans. En tant que présence imagée, il est remarquable pour le rôle de Bonaparte.
Albert Dieudonné s'appelle en réalité Albert Sauré, mais il a choisi de porter le nom de sa mère par admiration pour son grand-père, un immense comédien de théâtre du 19e siècle. Très jeune, Albert choisit lui aussi ce métier. D'abord sur les planches, puis au cinéma, inventé en 1895 quand il a 6 ans. Très vite, il se met également à écrire et à réaliser ses propres films. Mais en 1925, le rôle de Napoléon dans le film de Gans change littéralement sa vie. À partir de là, il bascule dans une étrange et belle folie. Alors qu'il est une star de son temps, il sort des radars et le personnage de l'empereur ne cesse de le hanter. À sa mort, en 1976, il demandera à être enterré dans le costume de Napoléon.
J'ai toujours été un passionné d'histoire, même dans mon âge le plus tendre. Eh bien, j'étais passionné pour la Révolution et naturellement l'Empire et l'Empereur.
Je pourrais presque dire que j'ai appris à lire dans le mémorial.
J'avais un oncle qui était colonel de chasseurs à cheval en retraite, qui avait une propriété à Fontainebleau, chez lequel nous allions avec mes parents, et qui avait une bibliothèque militaire prodigieuse qu'il avait mise à ma disposition. Et tant et si bien que je ne dis pas que je voulais devenir Napoléon, mais je me disais, voyons, être Napoléon, c'est bien difficile, faudrait faire de la politique, c'est encore plus difficile et très dangereux. Alors un jour, j'ai eu un trait de lumière, je me dis, si je ne peux pas être réellement Napoléon dans la vie, mais je pourrais peut-être le devenir soit au théâtre, soit au cinéma. Tout le monde trouvait que j'avais une certaine ressemblance, physique bien entendu, avec Napoléon.
Napoléon est le héros de la vie d'Albert depuis son plus jeune âge. Il lui est inconcevable de ne pas jouer Bonaparte dans la superproduction de Gans. Et pourtant, le rôle lui est refusé et il doit se battre pour récupérer ce qu'il estime être son dû. Il va alors tenter et réussir un incroyable coup de poker. Il se présente un soir au château de Fontainebleau où Gans travaille aux derniers préparatifs du film. Le gardien et le conservateur ne sont pas prévenus et ont le choc de leur vie en voyant le fantôme de Bonaparte se présenter à la grille. Son incarnation est stupéfiante de vérité.
Un soir, j'ai revêtu l'uniforme de Bonaparte et dans l'obscurité, dans ce qui était assez très émouvant, dans le palais de Fontainebleau lui-même, alors j'ai joué des scènes que j'ai vécu dans ce palais, des heures que Napoléon aurait pu vivre. Je suis allé dans la salle des cartes, j'ai regardé toute la carte de l'Europe. Je réfléchissais, je marchais, Gans m'avait demandé de faire une proclamation, quoiqu'à ce moment-là, le film était muet. Alors j'ai fait cette fameuse proclamation. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. » Alors Gans a trouvé ma voix, quoiqu'à ce moment-là, la voix n'avait que peu d'importance, mais enfin il a trouvé mes expressions, mes gestes qui correspondaient assez à ce qu'il souhaitait. Il m'a dit, eh bien maintenant nous ferons un essai au studio, mais alors avec une caméra. Quelques jours après, nous avons fait un essai au studio de Billancourt. L'essai ayant été concluant, Gans m'a engagé.
Oui, et puis alors il insistait d'abord, mais j'étais très loin de penser qu'il pourrait le jouer.
Abel Gans.
Et je me suis dit, bon, je vais voir de près s'il est l'homme qu'il faut. Sa profonde connaissance de l'époque et son engouement, son enthousiasme pour ce personnage de Bonaparte tout de même finissait par m'influencer.
Le premier tour de manivelle fut donné au studio de Billancourt le 15 janvier 1925. Le décor représentait une mansarde de l'école de Brienne où Bonaparte, enfant, venait souvent se cacher et où il avait de mystérieuses conversations avec un aigle prisonnier dans une cage d'osier. Puis, ce fut le départ pour Briançon, où la troupe allait tourner dans la neige les scènes d'extérieur de l'école de Brienne qui n'existe plus aujourd'hui. Au retour, on tourna au studio les scènes de la misère de Bonaparte pendant les heures mouvementées de la Révolution. Puis, ce fut le départ pour la Corse, où la troupe devait séjourner plusieurs mois. La troupe se trouva considérablement augmentée du fait qu'un grand nombre de Cosaques djigites y furent adjoints pour les scènes de poursuites équestres dans le maquis. Jean Arroy, en tournant Napoléon avec Abel Gance, souvenir d'un sans-culotte.
Le génie de Gance, c'est d'avoir réuni toutes les forces vives et d'en avoir eu la capacité et l'énergie. Quand on voit tout ce qu'il a fait...
Jean-Pierre Mattei, fondateur de la Cinémathèque de Corse.
D'abord, il faut voir que c'est la première fois qu'une telle production vient en Corse et à Ajaccio et qu'il y a un tel déploiement de force, la cavalerie, Napoléon qui se promène dans la rue Fesch et dans ce qui va devenir le cours Napoléon. Je veux dire qu'il y a tout un élément qui fait que ça peut troubler les gens. Bon, on est aussi dans une période où on est après la guerre. La Corse a souffert beaucoup des suites de la guerre de 14-18. Et en même temps, ce qu'il y a aussi, c'est là le génie, c'est qu'il s'est entouré de tout ce que la Corse pouvait présenter d'artistes qui vont le recevoir dans les meilleures conditions. Donc il fait venir Henri Cros, qui a été réalisateur d'un film en 21, Les Trois Masques, qui a eu un grand succès. Il fait venir Volkov, qui a tourné dans le début des années 20, Les Ombres qui passent, avec Mandjoukine. Déjà, c'est l'école russe qui est venue en Corse et qui connaît les lieux. Alors en plus, on est à une période où il y a des élections. Dans les élections, le parti bonapartiste est un peu vacillant. Il est représenté par Dominique Colonne, le parti républicain par Jérôme Perret. Les deux n'acceptent pas tellement le tournage, en fait. Parce que Dominique Colonne, quand on suit un petit peu et qu'on gratte la presse locale, à un certain moment, il avait les prétentions de jouer Napoléon lui-même. Donc, comment on retrouve ça? C'est que quand on lit la presse plus tard, quand le film est présenté à Ajaccio, la presse fait état de la non-présence de Dominique Colonne à la première du film. Donc, il gardait peut-être... Il n'était pas reconnaissant envers Gans. Bon, mais ce sont des anecdotes, mais cette source d'anecdotes montre que la vie quotidienne des Ajacciens a été bouleversée pendant 2 mois. Ce qui est assez étonnant et troublant, c'est que quand ils ont tourné au Millel, et qu'il y a la scène où toute la Laetitia est avec ses enfants dans la maison et que là, on entend taper à la porte et que la porte s'ouvre et que on voit son Napoléon arriver, qu'elle est son fils. Dans la lumière de la porte, qu'est-ce qu'on voit? Un essaim d'abeilles qui tourne autour de Napoléon. Donc, à un certain moment, il y a des moments comme ça de grâce, je pense, dans le tournage où à un certain moment, on ne sait plus où est la vérité et où est la fiction. Quand on lit aussi les mémoires de la scripte Simone Durieux, qui montre qu'elle était là aux petits soins et que dès qu'il levait le doigt, il fallait répondre, que les ingénieurs comme Feynman et autres, ils disaient « il me faut ça », mais il lui fallait dans la minute qui suive. Et donc, ils tournaient, par exemple, des scènes, par exemple, la fuite de la famille de Bonaparte par la milice de Paoli, il se met à pleuvoir, il dit « continue à tourner ». Donc ça fait que le soir, les gens rentrent à Ajaccio, épuisés, mouillés, et c'est le délire, parce que bon, il payait bien les figurants, donc en même temps, il y avait quand même une certaine misère, et donc ça se savait, et donc tout le monde voulait participer. D'ailleurs, quand on voit les scènes qui a été tourné là, le making-of qu'a fait Jean Arroy, on voit qu'on est une population en délire. Donc là, on aimerait bien, à un certain moment, être retourner quelques années, 100 ans en arrière et voir comment l'ambiance qui régnait dans la ville d'Ajaccio.
Ils étaient au Grand Hôtel. Un soir, ils entendirent un vacarme d'émeute sous les fenêtres. Brandissant des flambeaux, tirant des coups de revolver, exultant de joie, 2000 Ajacciens, peut-être, se rendaient en pèlerinage à la célèbre grotte du Cazone, où Napoléon allait rêver et lire. Il planait sur eux un tel souffle d'enthousiasme qu'on attendait presque la réalisation d'un miracle. Se produisit-il ? Oui. Les persiennes s'entr'ouvrirent et Dieudonné, qui avait endossé hâtivement son uniforme, parut sur le balcon. Le délire populaire crut encore et Dieudonné dut les accompagner à la grotte au son de l'Ajaccienne. Et la fête dura jusqu'à 2h du matin. Jean Arroy, en tournant Napoléon avec Abel Gance, souvenir d'un sans-culotte.
J'ai un témoignage, évidemment, très, très proche, hein, parce que c'est ma grand-mère qui me racontait...
Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse.
Qu'elle était donc à Ajaccio, elle avait une quinzaine d'années au moment du tournage. Elle n'était pas ajaccienne, elle était de l'autre côté de la Corse, elle était de Pietradiverne. Et donc, elle voyait les choses un petit peu avec ce regard extérieur. Elle me racontait donc avoir assisté à des scènes pendant le tournage du Napoléon d'Abel Gance, à des scènes qui étaient très étonnantes pour elle, qui n'étaient pas ajacciennes. Une ferveur, alors bien sûr que Napoléon, ça parlait à tous les Corses, hein, cette ferveur quasi religieuse à laquelle elle a assisté, c'est vrai, l'avait beaucoup étonnée. Les Ajacciens étaient dans un état d'esprit vraiment qui était stupéfiant. Hein, pour quelqu'un qui n'était pas ajaccien. Donc ça veut dire que la mémoire napoléonienne, bien sûr, ça concerne toute la Corse, c'est quelque chose qui l'avait vraiment frappé.
Il faut imaginer qu'à cette époque-là, Napoléon Bonaparte est quelqu'un de très présent.
Jean-Marc Olivesi, directeur du Musée national de la Maison Bonaparte.
On a l'impression qu'on pourrait le rencontrer à n'importe quel moment. Et mes amis ajacciens de vieille souche me disaient, tout le monde voulait le voir. Et puis c'était l'époque où, par exemple, moi j'ai des amis qui me disent, à ce moment-là, par exemple, dans les familles, tous les enfants portaient les noms des petits Bonaparte, Pauline, Jérôme. Or qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que des jeunes ajacciens connaissent le nom d'un seul des frères de Napoléon. Nous vivons à une autre époque. En 1925, les choses étaient radicalement différentes. Et puis il y a ce personnage d'Albert Dieudonné qui... Je ne sais pas si Abel Gance l'a voulu vraiment, mais en tout cas, il fait le job. C'est-à-dire qu'il va incarner Napoléon au point tel qu'à certains moments, on lui demande de s'habiller en Napoléon. Qu'un jour, il y a une retraite au flambeau vers le Cazone. Il y a tout Ajaccio qui participe à cette retraite au flambeau. Je ne sais plus si c'était pour la naissance ou pour le décès. Donc le 5 mai ou le 15 août. Et il passe devant le grand hôtel, l'actuel siège de la collectivité de Corse. Et ils savent que Dieudonné est là, et tout le monde se met à crier « Napoléon, Napoléon ». Albert Dieudonné, qui comprend tout de suite ce dont il s'agit, parce qu'il avait vu comment les Ajacciens réagissaient en sa présence, se met au balcon, balcon central du Grand Hôtel et salue la foule. Et alors là, c'est du délire. Pour dire dans quelle osmose on était à cette époque-là. Je ne sais pas ce que ce serait aujourd'hui. Je pense qu'un grand tournage de cinéma comme celui-là fascinerait toujours les populations, mais je ne sais pas s'il y aurait évidemment cette identification avec le personnage de Bonaparte.
L'homme qui voulut être Napoléon. Première partie, l'incroyable incarnation. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Marc Guidoni, réalisé par Laurent Polleret.
La suite de l'histoire de l'homme qui voulut être Napoléon, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.